Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 17 décembre 2018, en direct de Washington. Jean-Roger Billon
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Un autre entrepôt de la commission électorale attaqué dans l'est de la RDC et l'opposant Martin Fayoulou refuse tout report des élections.
Côte d'Ivoire, nouvelle violence lors d'élections locales partielles, l'épicentre des troubles, les communes de Bassam et de Port-Bouy.
Manifestation dimanche à Bruxelles contre le pacte de l'ONU sur les migrations.
L'Arabie Saoudite réplique au Sénat américain, notamment sur le meurtre de Khashoggi et le soutien dans la guerre au Yémen.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les autorités affirment qu'un nouvel entrepôt de la commission électorale a été attaqué hier à une semaine des élections prévues dans ce pays, où les autorités parlent de fermer les frontières le jour du vote, Jacques Aristide.
L'armée a repoussé avec la police une attaque d'un groupe armé rebelle contre l'entrepôt à Beni. Les matériels sont intacts, dont 2000 machines à voter, d'après le chef d'antenne de la commission électorale. Les élections auront toujours lieu à Beni, ajoute Deogracias Mbayahi. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un entrepôt de la CENI à Kinshasa. Le sinistre, dont l'origine a été qualifiée de criminelle, a détruit 80% des machines à voter destinées à la capitale, selon la version des autorités. La CENI, par la voix de son rapporteur Jean-Pierre Kalamba, rappelle qu'elle n'est qu'une institution d'appui à la démocratie et ne devrait pas être vue comme une cible à des attaques de tout genre qui ne serviront qu'à saboter les élections. Le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, a lui indiqué qu'il allait appeler l'armée à la rescousse pour faire des opérations de police le jour des élections afin de garantir une sécurité maximale. Il est de tradition de fermer les frontières, a-t-il ajouté sur Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Toujours en RDC, l'un des deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou, a prévenu qu'il refusait tout report de l'élection présidentielle prévue le 23, tout en acceptant sous condition une procédure de vote qu'il refusait jusqu'à présent. Son directeur de campagne, Pierre Lumbi, a fait savoir lors d'un point de presse que son candidat est déterminé à participer aux élections et n'envisage nullement le boycott. Il a aussi averti, je cite, que seul le résultat issu du comptage manuel des bulletins déposés dans les urnes, en outre validé par les témoins des partis politiques et les observateurs indépendants devront être pris en compte. Nous reviendrons sur ce sujet dans la seconde partie de cette édition.
En Côte d'Ivoire, 2 mois après des violences qui avaient conduit à l'annulation de plusieurs scrutins des municipales du 13 octobre, la reprise de ces élections locales a été marquée dimanche par de nouveaux incidents, notamment dans la cité balnéaire de Grand Bassam et à Port-Boué, une commune d'Abidjan. Les violences sont intervenues malgré un déploiement massif des forces de l'ordre. Le point avec Thomas Kemilindi.
À Port-Boué, des individus ont caillassé une fenêtre du siège électoral du principal parti d'opposition, le PDCI. Plusieurs personnes ont été tabassées et dépouillées devant le siège, selon son parti. Pour son candidat, Sylvestre Emou, certaines personnes tentent de tricher. Il parle aussi d'intimidation d'électeurs. Du côté de la majorité présidentielle, le directeur de campagne de l'autre favori, Siyandou Fofana, fait les mêmes reproches au PDCI. Sans même que les résultats n'apparaissent, M. Emou dit toujours qu'il a gagné, affirme Marcel Ngouetia. À Grand Bassam, des incidents ont notamment eu lieu dans des bureaux de vote traditionnellement favorables au PDCI. À Lakota, où une personne avait été tuée le 13 octobre, les forces de sécurité étaient aussi très présentes dimanche, selon un observateur électoral, alors qu'une forte tension avait régné dans la ville les jours précédents. Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire à 2 ans de la présidentielle, déjà dans toutes les têtes.
Au Mali voisin de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre a annoncé ce week-end de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité à Tombouctou, dont l'envoi de policiers, gendarmes et soldats supplémentaires dans cette région du nord du pays après une montée de l'insécurité qui inquiète les populations. Arzouma Compaoré.
Le chef du gouvernement malien s'exprimait à Bamako à son retour d'une visite de 48 heures dans la région de Tombouctou. Il s'agira précisément de 350 éléments supplémentaires de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale, qui est une unité de l'armée. Soumaïlou Boubaï Maïga n'a toutefois pas précisé de date. Son cabinet a évoqué début 2019. Le premier ministre malien a également annoncé l'accroissement des moyens logistiques des forces de sécurité, la création prochaine d'un corps de garde frontière et la création création en 2019 de la région militaire de Taoudéni, une région administrative récemment créée. De nombreux habitants de Tombouctou se sont affirmés inquiets de l'insécurité. Des zones entières dont le nord échappe au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières. Il y a également des braquages et des vols de véhicules. Pour M. Maïga, ce sont des bandits alliés aux terroristes qui commettent ces braquages. Il affirme que chacun doit choisir son camp et aider les forces de sécurité et de défense.
Des centaines de personnes ont abandonné dimanche leur village dans le nord-est du Nigeria après une attaque du groupe djihadiste Boko Haram qui l'a entièrement incendié. D'après l'AFP qui cite des témoins, des combattants de Boko Haram à bord de plusieurs camions ont pris d'assaut le village de Maïborti à 5 km de Maïdougouri, ouvrant le feu sans discrimination et mettant le feu aux maisons selon les mêmes sources. Un responsable militaire qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat a indiqué que des soldats appuyés par des avions militaires avaient été dépêchés sur place et avait réussi, après d'âpres combats, à chasser les assaillants. Il n'y avait pas d'informations dans l'immédiat sur d'éventuelles victimes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins 9 personnes, dont 5 civils, ont péri dimanche dans la ville syrienne d'Afrin, dans le nord du pays dominé par les forces turques et leurs alliés syriens, dans l'explosion d'une voiture piégée dans le centre de la ville, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Plus de 20 personnes, des civils ou des combattants, ont en outre été blessées. Certaines sont dans un état grave. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, a par ailleurs causé d'importants dégâts matériels dans le secteur, toujours d'après l'OSDH.
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles contre le pacte de l'ONU sur les migrations lors d'un rassemblement organisé par un collectif d'organisations d'extrême droite et marqué par des heurts avec les forces de l'ordre. Des détails avec Irénée Herman Umbo.
La police a dénombré 5500 participants réunis au cœur du quartier des institutions européennes, certains réclamant la démission du Premier ministre belge Charles Michel. Après un début dans le calme, des manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre et commis des dégradations, notamment sur des façades de bâtiments de l'Union européenne. La police a répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène et de lances à eau. Les forces de l'ordre ont procédé à au moins 90 interpellations. Une contre-manifestation organisée par un collectif d'organisations appelant à ne pas stigmatiser les migrants a réuni de son côté sans incident un millier de participants dans un autre quartier de Bruxelles. Les opposants au pacte de l'ONU sur les migrations adopté récemment par plus de 150 pays ont baptisé leur rassemblement Marche contre Marrakech en référence à la ville marocaine où a été formellement approuvé le texte controversé.
L'Arabie Saoudite a condamné aujourd'hui le vote de la résolution du Sénat américain hostile au régime de Riyad, l'une sur le conflit au Yémen, l'autre sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Le Royaume d'Arabie Saoudite rejette la position exprimée récemment par le Sénat américain, qui se fondait sur des affirmations et allégations sans preuve et contenait des ingérences flagrantes dans les affaires internes au Royaume, sapant son rôle régional et international, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué sur le site internet de l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Les deux résolutions avaient été approuvées jeudi grâce au vote essentiellement de sénateurs démocrates, mais aussi de quelques républicains. La première appelle le président Donald Trump à retirer les forces armées américaines des hostilités au Yémen ou affectant le Yémen, sauf les forces américaines engagées dans des opérations visant Al-Qaïda ou des forces associées.
Au Royaume-Uni, Theresa May est toujours en campagne pour son plan de sortie de l'Union européenne. La première ministre britannique prévoit ce lundi mettre en garde les parlementaires contre les dégâts irréparables que pourrait provoquer, selon elle, la tenue d'un second référendum sur le Brexit. Ne rompons pas la confiance du peuple britannique en organisant un nouveau référendum sur le Brexit, dit-elle aux élus, selon des extraits de son discours diffusé par ses services. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Écoutez Le Monde aujourd'hui.
Et maintenant, la minute économique, Nani Talani.
Au Burkina Faso, une station de recharge de lampes solaires vient d'être mise en service au sein de l'école rurale de Kirma, au sud de Ouagadougou. Première d'une série, cette station solaire permettra de recharger simultanément 40 lampes par jour au profit des élèves et enseignants qui disposent au total de 320 lampes. La station est développée par l'entreprise française La Gazelle, implantée à Dégoudou et qui a déjà fabriqué 60 000 lampes solaires d'une autonomie variant de 8 à 20 heures. Le Bénin va bénéficier de la Banque africaine de développement d'un prêt de 163 millions d'euros pour soutenir son industrie cotonnière. Ces fonds serviront à aménager la principale route Banikwara-Djougou, épine dorsale du réseau des routes cotonnières du nord-ouest du Bénin. Cela va réduire la durée du transport actuellement de 10 heures environ pour un poids lourd. La route faciliterait ainsi le transport du coton qui représente 13% du PIB béninois et environ 60% de la production et la transformation de son tissu industriel.
À présent, la page des sports avec Élisée Nkpatine. Bonjour Élisée. Football avec le tournoi UEFA des moins de 20 ans de la zone B, le Sénégal remporte le trophée.
Oui, les Lionceaux ont battu en finale le Nigeria 2-0 au stade municipal de Lomé, invité de dernière minute. Le Sénégal remporte ainsi le trophée grâce au but de Saya Amadou et de Youssoufa Badji pour le match de classement. Le Mali termine 3e après sa victoire de 2-1 face au Niger.
16e de finale aller des compétitions africaines des clubs et en Ligue des champions, un sans faute pour les représentants de la RDC.
15 jours après son échec en finale de la Coupe de la CAF, la SV Club a parfaitement débuté la C1 en écrasant à Kinshasa FC Batou de Lesotho 4-1 à Lubumbashi. Service minimum pour le TP Mazembe devant les Zambiens de Zesco United. En revanche, de l'autre côté du fleuve à Brazzaville, la S Otoho a connu moins de réussite puisque accroché un pas platinum du Zimbabwe. En Égypte, Coton Sport de Garoua a été battu 2-0 par Ismaïlia. Enfin, en Tunisie, le club africain a dominé les Soudanais d'Al Hilal. Même score en faveur de Gom Maya du Kenya contre les Nigériens de Lobby Stars.
C'est mal parti pour le stade malien, battu à domicile.
Le club de Bamako a été surpris au bout du temps additionnel par la SEC d'Abidjan. But d'Ahmed Touré à la 92e minute. Un bon résultat pour les Ivoiriens, même si leur entraîneur Amani Yao César fait profil bas.
Laisser des boulevards derrière, on en a profité pour mettre un but, c'est ce qu'on recherchait. Rien n'a encore fait, c'est du 50-50. On a pris une avance, mais ce n'est qu'une avance, après il faut le matérialiser au retour. Sans fanfaronnade, sans se croire déjà qualifié, non, on va travailler dans un autre état d'esprit pour aller à la guerre, et puis à la guerre en guillemets, pour essayer de rentrer dans cette phase de poule.
Noum Diané, le coach du stade malien, croit un résultat positif à Abidjan dans une semaine.
On savait que ça n'allait pas être facile, mais au-delà de ça, je pense que notre objectif c'était quand même de tout faire pour gagner ici. Et à domicile avant le match retour. Je pense que techniquement les équipes ont produit réellement du football. Et même en premier temps, on a eu quelques occasions. Je pense qu'on a eu plus d'occasions que l'Afrique. Sur ce match-là, ils ont été plus efficaces. Il faut croire, il faut continuer à travailler. Vraiment, on va aller à Abidjan, on va tout mettre en œuvre quand même pour gagner là-bas.
Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, dans les autres rencontres. Contre-performance pour Oroya, qui a essuyé une lourde défaite de 3-0 à Benghazi face au Libyen d'Al-Nasr. Fortune diverse pour les clubs marocains. Le Wydad s'est imposé 2-0 face au Sénégalais de Djaraf, tandis que Tanger s'est incliné 2-0 à Saoura en Algérie. Et puis à domicile, Al-Ali du Caire a assuré en dominant 2-0 les Éthiopiens de Djima Abba Djifa.
En Coupe de la CAF, le Raja de Casablanca déroule à domicile.
Oui, le tenant du titre n'a fait qu'une bouchée des Gabonais du CMS 5-0. Pour le reste, notons entre autres la belle victoire en déplacement des Burkinabés de Salitas 2-0 en Égypte contre Al-Masri. Entrée réussie pour les clubs tunisiens qui évoluaient tous à domicile. L'Étoile du Sahel a étrié les Ivoiriens du stade d'Abidjan 3-0 et le club spatien a corrigé les Zambiens de Green Buffalo 4-1. Et puis, Zamalek a fait exploser l'AS Coton Tchad 7-0. Enfin, pas de vainqueur à Kinshasa entre le Darin Club Motéba Pembe et les Ivoiriens de FC San Pedro, score un but partout.
Élisée, on parle à présent de la CAN 2019. La compétition aura lieu soit en Afrique du Sud, soit en Égypte.
Effectivement, puisque ce sont les deux seuls pays à avoir déposé leur dossier pour accueillir cette compétition, a annoncé la CAF dans un communiqué au lendemain de la clôture des candidatures et a précisé que le pays organisateur sera connu le 9 janvier prochain. Les deux pays avaient annoncé publiquement leurs intentions d'abriter le tournoi. On rappelle que le Cameroun s'est vu retirer cette CAN 2019 en novembre dernier en raison des retards accusés dans la réalisation des infrastructures. Et puis, du basketball, les résultats des matchs joués cette nuit en NBA.
Atlanta s'est incliné face à Brooklyn Nets 127-144. Philadelphie a relevé le défi devant les Cavaliers de Cleveland 128-105. Indiana a défait New York Knicks 110-99. Los Angeles Lakers a plié les Chines devant les Wizards de Washington 110-128. Sacramento dispose de Dallas 120-113 et Miami Heat a logiquement battu New Orleans 102-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
VOA Afrique, nous passons maintenant à nos dossiers de ce jour, en commençant par la République démocratique du Congo, la coalition Lamuka qui soutient la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle accepte à une semaine du scrutin d'aller aux élections avec la machine à voter à laquelle elle était catégoriquement opposée jusqu'ici. C'est le directeur de campagne du candidat Fayulu qui l'a annoncé dimanche à Kinshasa le week-end dernier. Le week-end a été également marqué par des scènes de violence à l'arrivée de Félix Tshisekedi à Tshikapa, dans le centre du pays. Les affrontements entre ses militants et ceux du parti au pouvoir ont fait 3 morts. Reportage Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
La coalition Lamuka tient donc à ces élections. C'est pour cette raison que la coalition Lamuka est opposée au vote avec l'usage de la machine à voter, proscrit par notre loi électorale en son article 237, mais que la CENI s'obstine à imposer à l'absence de tout consensus à la matière. Ainsi, conformément aux recommandations de la CENCO et aux récentes déclarations de la CENI, ces machines peuvent servir pour d'autres tâches, telle l'impression de bulletins de vote.
Cette déclaration du directeur de campagne Pierre Lumbi est un revirement de la position de la coalition Lamuka qui porte la candidature de Martin Fayulu. Cette coalition, issue de l'accord de Genève, accepte finalement l'usage de la machine à voter pour les scrutins du 23 décembre 2018, tout en insistant sur le fait qu'elle ne serve que d'imprimante. Pierre Lumbi dit avoir fait cette déclaration après avoir eu des discussions lors de son escale à Kinshasa avec son candidat Martin Fayulu qui a entamé dimanche sa tournée dans l'ancienne province du Bandundu. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, eux, sont à Tshikapa dans le Grand Kasaï. Le candidat président de Cap pour le changement rappelle ici pourquoi la population doit voter pour lui.
Nous avons demandé à notre peuple qu'il ne fallait pas du tout qu'il vote pour le candidat du camp sortant, le camp Kabila, qui promet d'ailleurs la continuité, donc la continuité des malheurs des Congolais, la continuité de l'insécurité, la continuité du chômage, la continuité de toutes les difficultés que les Congolais subissent aujourd'hui. Ni ce camp-là, ni celui de la confusion. Le camp de la confusion, c'est celui qui dit qu'il faut aller casser les machines quand vous êtes dans le bureau de vote, ou alors il faut falsifier le bulletin. Des fois, ils reviennent sur tout ça en disant non, non, tout compte fait, maintenant on va aller aux élections. Donc vous voyez que ça perd, hein, ils perdent le sens même de l'électeur. Donc nous disons, ni l'un ni l'autre votez pour nous.
Malheureusement, peu avant l'arrivée à Tshikapa des leaders du ticket UDPS-UNC, des militants qui les attendaient se sont affrontés à ceux de la coalition au pouvoir qui accueillait le même dimanche le candidat député national Makaire Mwangu. Un premier bilan fait état de 3 morts. De son côté, Emmanuel Ramazani Shadari poursuit sa tournée dans la partie est du pays. Après Bukavu samedi, il a tenu un meeting dimanche à Goma dans la province du Nord Kivu où le premier ministre honoraire Sami Badibanga, également candidat président de la République, s'annonce ce lundi. Face à ces scènes de violence à répétition qui ont provoqué mort d'homme depuis le début de la campagne électorale, le Conseil d'apostolat des laïcs catholiques appelle à une prière pour la nation avant les élections. Crispin Landa est de cette structure de l'Église catholique.
Nous sommes partis pour des contestations, nous sommes partis pour la violence. Il y a des morts d'hommes, des incendies, je ne sais pas si cet incendie est véritablement un incendie criminel ou volontairement commis par quelques personnes qui en auraient bien envie. C'est une situation extrêmement dangereuse pour les pays. Aujourd'hui, et la communauté internationale et nos acteurs politiques, tous ont démontré leur incapacité à apporter la paix. Et nous, comme chrétiens, nous lançons l'appel à la prière pour la nation.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Nigeria, à moins de 2 mois de la présidentielle de 2019, un débat télévisé a opposé les candidats à la vice-présidence de la première puissance africaine. 5 partis politiques ont été sélectionnés pour le débat. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Temba, a suivi pour nous le débat et a recueilli les réactions des Nigériens. Les détails dans ce reportage.
5 candidats à la vice-présidence sont pris part à ces premiers débats télévisés. Ils ont répondu aux questions en direct sur les programmes de leur formation politique. Parmi eux, 2 femmes, une première au Nigeria. Ont également participé au débat l'actuel vice-président Yemi Osinbajo pour le parti au pouvoir et Peter Obi du principal parti d'opposition, le PDP. L'économie, le chômage, la corruption, mais aussi la politique étrangère du Nigeria sont des questions qui ont été débattues par les candidats. Le vice-président sortant a défendu l'action de son administration, évoquant les efforts faits en matière d'infrastructures.
Notre pays avait un manque criant d'infrastructures ces 16 dernières années. Nous n'avions pas de voies ferrées, pas de routes et pas d'électricité. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2015, l'électricité était à 4000 MW. Il faut des infrastructures solides et personne ne peut avoir d'excuses sur cette question. C'est la priorité de la politique de notre administration.
L'autre sujet brillant de ces débats était la lutte contre la corruption au Nigeria. Peter Obi du PDP, le parti d'opposition, pense que...
Lutter contre la corruption n'est pas une politique économique. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas combattre la corruption. Vous pouvez combattre la corruption avec rigueur et en même temps faire face aux problèmes économiques. En 2015, le taux de chômage était à 24%. Aujourd'hui, il a atteint 40%.
Ce premier débat télévisé a été bien suivi par les Nigériens. Certains ont réagi après le débat au micro de VOA Afrique. Emmanuel Mobiko est un activiste.
Il est clair que l'actuel vice-président a été coincé durant le débat. Il ne pouvait rien dire aux Nigérians. Le gouvernement actuel a réalisé peu de choses durant ces 3 années et demie. Il se battait pour trouver des explications convaincantes de ce que le gouvernement a fait et ce que le président pense faire s'il est réélu.
Un avis que ne partage pas la directrice du Centre pour la démocratie et le développement au Nigeria, Hidayat Hassan.
Il a pu convaincre d'une manière raisonnable, mais la réalité est que les sondages menés aujourd'hui donnent aux candidats de l'opposition PDP un meilleur score durant ce débat. Il faut aussi comprendre qu'en tant que vice-président sortant, il n'est pas facile de participer à un débat, parce que vous allez défendre votre politique, essayer de montrer vos acquis, mais pas nécessairement ce que les gens en pensent.
La bataille pour la succession ou le maintien à la tête du Nigeria du gouvernement de Muhammadu Buhari en 2019 a ainsi franchi une nouvelle étape ce week-end avec ce premier débat. Le 19 janvier prochain est prévu le grand débat qui opposera les candidats à la présidence. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui vous convie du lundi au vendredi à une édition spéciale sur les élections en République démocratique du Congo. Rendez-vous tous les jours avant et après les élections en RDC à 17h45, 18h45, 19h45 temps universel et dans le matinal pour des reportages, analyses et réactions des citoyens ordinaires et toute la classe politique. Le dimanche 23 décembre, jour du scrutin, nous vous proposons 3 éditions spéciales. De 14h30 à 15h temps universel, de 18h30 à 19h temps universel et de 20h à 21h temps universel. Nous aurons aussi 2 éditions spéciales en Lingala de 14h à 14h30 temps universel et de 16h à 16h30 temps universel. La Voix de l'Amérique toujours à votre service pour une information juste et équilibrée. Écoutez VOA Afrique.
Au Mali, le processus de réconciliation politique semble être en panne. L'opposition réunie autour de Soumaïla Cissé rejette toujours la victoire d'Ibeka à la présidentielle de juillet dernier. Et les efforts de dialogue entrepris par le gouvernement ne donnent toujours rien. À Bamako, retrouvons la correspondance de Kassim Traoré.
Le challenger du président Ibrahim Boubacar Keïta ne reconnaît pas toujours la réélection du chef d'État malien. Soumaïla Cissé et ses partisans mettent en cause les irrégularités lors du dernier scrutin. Chana Takiou, directeur de publication du journal 22 septembre.
En Afrique, il n'y a pas d'élection sans quelques difficultés. Il y a une certaine difficulté, mais Ibeka a gagné proprement cette élection. Je pense que l'opposition actuelle incarnée par Soumaïla vraiment n'est pas dans une logique de rassemblement. Ibeka tend la main plusieurs fois, des tractations sont en cours pour que les fils du Mali puissent se mettre ensemble, travailler pour le pays. Malheureusement, l'urgence de sommeil des cités n'est pas dans cette logique.
Depuis plusieurs semaines, l'opposition organise des manifestations dans les rues de la capitale. Ces derniers temps, la mobilisation a été faible. Alexis Calambri, chroniqueur au quotidien de Djamana.
Mais c'est important, je l'ai dit, tant que c'est une seule personne qui va toujours contester. Et ce que je retiens surtout du 9e congrès du discours de semaine-là, c'est qu'il s'inscrit lui aussi dans le dialogue. Il reconnaît qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue politique. Il déplore le manque de dialogue, mais à la limite qu'on le prenne au mot, je pense, puisque lui-même reconnaît qu'il faut le dialogue.
Le président a chargé le premier ministre Soumerouboué Maïga d'entreprendre le dialogue avec l'opposition. Cette tentative qui n'a pas encore abouti est soutenue par les leaders religieux et les dignitaires traditionnels de la capitale. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat.
Ils ont entamé des démarches dans le sens d'un dialogue entre Smaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta a renvoyé l'opposition à une rencontre avec son premier ministre. Or, le problème, c'est que quelque temps auparavant, le premier ministre avait demandé à rencontrer Soumaïla Cissé qui avait refusé de le recevoir. Alors comment vaincre les réticences et organiser cette fameuse rencontre?
Pour le président de la coalition alternative citoyenne, si le statu quo est maintenu, il sera difficile d'entamer des réformes dans le pays. Mohamed Ag Agamani, ancien premier ministre.
Ça sent bien que le gouvernement malien fait face à des multiples résistances contre les réformes et les procédures envisagées pour l'adoption de celle-ci par une grande partie de la population malienne et de la classe politique qui, dans sa majorité, observe une indifférence totale à la mise en œuvre de l'accord qu'elle considère comme l'affaire du seul pouvoir en place.
Les leaders religieux et les dignitaires traditionnels de la capitale doivent rencontrer les deux parties cette semaine avant les fêtes de fin d'année. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Direction la Côte d'Ivoire maintenant. Le gouvernement réclame le retour d'environ 20 000 objets d'art irrégulièrement sortis du pays depuis des années. Le pays compte construire une dizaine de musées pour recevoir ces biens culturels. Les précisions à Abidjan avec Georges Ibrahim Tunkara.
La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres pays du continent dont le Bénin et le Sénégal, demande que lui soient restitués des milliers d'œuvres d'art pillées notamment pendant la période coloniale. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, il s'agit d'environ 20 000 œuvres d'art.
À l'instar de nombreux pays africains spoliés de leurs biens culturels ancestraux, notre pays compte des milliers d'œuvres irrégulièrement détenues à l'extérieur. Au moins 50 musées en Europe et en Amérique, en dehors des collections privées, détiennent dans leurs collections respectives environ 20 000 objets d'art d'origine ivoirienne estimés à 6 000 milliards de francs CFA. Dans le cadre du processus de retour de ces biens culturels, une première liste de 148 objets d'art à restituer a été transmise.
Au nombre des objets dont la restitution est prioritaire pour la Côte d'Ivoire, figure un tambour actuellement conservé au musée du Quai Branly à Paris. Sylvie Memel-Cassi, directrice du musée des civilisations des Côtes d'Ivoire.
Nous avons, un objet culte en ce moment qui a toujours été réclamé par le peuple tchaman, les ouvriers de Côte d'Ivoire, et c'est le Didi Ayoukoué, ce tambour parleur sacré, qui est un objet de communication qui permettait à la population de l'époque, au temps colonial, de prévenir la communauté de l'arrivée ou pas du colon. Le colon n'a rien eu à faire que de prendre cet objet.
De nombreux Ivoiriens saluent également l'annonce par la France de la restitution de ses œuvres d'art.
Je suis très bien content pour le retour des biens culturels africains. Moi, je suis du Nord. J'ai remarqué qu'il y a certaines zones du Nord, tous les biens culturels se trouvent en Europe. Mais s'il y a le retour des biens culturels, je suis très bien content. Et je remercie ceux qui sont sur la question du débat de ce problème.
Moi, je crois que c'est une belle initiative. Tout ce qui nous a été structuré, il faudrait que nous retrouvions cela et que cela nous revienne. Parce que c'est de notre droit. Il faudrait que cela nous revienne pour que nos enfants aussi connaissent la valeur de ces choses.
Si les œuvres d'art demandées par le gouvernement ivoirien étaient restituées à la Côte d'Ivoire, cela contribuera certainement à attirer encore plus de visiteurs au musée qui se remet progressivement des pillages consécutif à la crise post-électorale de 2010-2011. Le gouvernement annonce aussi la construction d'un grand musée d'envergure internationale et 12 musées régionaux. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Errol Smith. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonne journée à tous à l'écoute de VOA Afrique.